Merci d'écouter RFI et bienvenue si vous nous rejoignez. Il est 9h à Port-au-Prince, 15h ici à Paris.
RFI Midi.
Dernière partie de RFI Midi, nous sommes sur le continent américain durant la prochaine demi-heure pour parler notamment du droit à l'avortement aux États-Unis, sujet au cœur de la campagne électorale cette fois encore, 2 ans après la décision choc de la Cour suprême qui avait supprimé le droit fédéral à l'IVG. Depuis, les lois varient beaucoup d'un État à l'autre, les inégalités aussi. Nous en parlerons avec notre invité dans quelques minutes. À suivre également la revue de presse du continent et notre autre rendez-vous quotidien, l'actualité des Outre-mer. Tessa Gromane, vous nous parlerez tout à l'heure de trafic d'armes en Martinique.
9 homicides par arme à feu ont été commis dans l'île depuis le début de l'année. La circulation d'armes de poing est un phénomène régional, selon la procureure de la République.
Tessa Gromane, on vous appelle dans 20 minutes et tout de suite, c'est le journal. Bonjour Sophie Pouzrat.
Bonjour Anne, bonjour à toutes et à tous. Et à la une de l'actualité en France, on entre dans la dernière semaine avant le premier tour des législatives. Et dans l'agenda ce lundi, le président du Rassemblement National, Jordan Bardella, a présenté son programme. Il assure que son parti est prêt à gouverner en cas de victoire aux élections. Mais en attendant d'aller aux urnes ce dimanche, les candidats de tous bords s'activent et leurs militants aussi. Ils multiplient les opérations de tractage et les réunions publiques. Laurence Théo a pu rencontrer certains de ses militants sur le marché de Belleville à Paris, ravi de vivre une expérience au contact des électeurs.
Certains passants acceptent des tracts machinalement sans y prêter attention, mais beaucoup s'arrêtent pour discuter, comme l'explique Philippe, militant LFI pour le Nouveau Front Populaire.
En fait, il ne faut pas oublier qu'il y a très peu de lieux où les gens peuvent discuter politique. Et ce qu'on voit en fait, c'est qu'il y a plein de gens qui veulent discuter. Ils veulent des arguments, ils ont des hésitations, ils ne savent pas exactement. Et ils veulent discuter politique, qu'ils soient d'accord ou pas.
En ciré jaune, Olivier a prévu l'averse qui s'abat sur le marché. Pour lui, militer, c'est échanger avec les autres.
Le souffle du militantisme, c'est quand même ça, c'est de rencontrer des gens, c'est de nouer des liens avec des gens qui pensent la même chose ou pas. Ça fait partie de la démocratie aussi.
Dans le brouhaha du marché, on entend « Cassez-vous !» une insulte envers les militants.
Là, le gars, il voit les tracts, il dit « Cassez-vous, cassez-vous !» C'est tout à fait le moment où il ne faut surtout pas réagir, quoi.
Mais les insultes peuvent blesser Léa, jeune militante.
Moi, je ne vais pas dire que ça m'atteint jamais, ça serait mentir.
Pour sa part, Fabien se veut rassurant.
Si on s'en prenait plein la tête, on ne serait peut-être pas forcément là.
C'est un rituel avant de se quitter. Les militants posent souriants pour une photo souvenir.
Un reportage de Laurence Théo. Les combats intenses avec le Hamas à Rafah seraient sur le point de se terminer. En tout cas, c'est ce qu'annonce le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. Mais il précise que cela ne signifie pas la fin de la guerre à Gaza, un conflit qui a fait 37 626 morts dans l'enclave depuis le 7 octobre, selon un dernier bilan du ministère de la Santé du Hamas. En parallèle, le chef du gouvernement israélien a dépêché son ministre de la Défense à Washington, Yoav Gallant, avec une mission, s'assurer du soutien américain en cas de guerre sur plusieurs fronts. À Jérusalem, la correspondance de Sami Boukhlifa.
Yoav Gallant est à Washington pour présenter la stratégie israélienne. Il souhaite le début de la phase 3 à Gaza, c'est-à-dire le retrait des troupes au sol. L'alternative, des opérations éclairs ciblées comme c'est le cas en Cisjordanie occupée. Les contingents de l'armée israélienne pourront ainsi être redéployés au nord du pays, en cas de guerre totale avec le Hezbollah. Ces dernières semaines ont été marquées par une montée en puissance des échanges de tirs entre Israël et le parti libanais, soutien du Hamas. La mission du ministre de la Défense israélien à Washington est donc de s'assurer de l'appui militaire américain. Israël, États-Unis, les relations entre les deux alliés sont inébranlables, mais elles sont marquées par un nouvel épisode de crispation. En cause, des propos de Benjamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien a critiqué publiquement l'administration américaine, lui reprochant de restreindre les livraisons d'armes à Israël. Washington a certes menacé l'État hébreu de suspendre ses livraisons d'armes, mais ne l'a jamais fait. Seule restriction pour le moment, le blocage d'une seule cargaison de bombes dévastatrices d'une tonne, en raison de leur utilisation par l'armée israélienne dans des zones densément peuplées à Gaza. Sami Boukhlifa, Jérusalem, RFI.
Autre conflit, celui en Ukraine, qui fait toujours rage. Les autorités de la région de Donetsk annoncent la mort de 4 personnes dans une frappe russe qui a aussi fait une trentaine de blessés. Les affrontements s'intensifient dans l'est du pays alors que Kiev a mené des frappes sur la région occupée de Crimée à l'aide de missiles américains, selon Moscou. Résultat, le Kremlin accuse Washington de participer au combat et d'entraîner la mort de citoyens russes. Il menace les États-Unis de représailles. Et suite à cette frappe en Crimée, l'ambassadrice américaine en Russie a également été convoquée par la diplomatie russe. Aux États-Unis, justement, 2 ans après l'abrogation du droit constitutionnel à l'avortement, les anti-IVG ne baissent pas les armes. Une vingtaine d'États ont interdit totalement ou presque l'IVG, mais il reste légal dans la plupart des États démocrates. Et le résultat est plutôt paradoxal. Le nombre d'avortements augmente depuis 2 ans au niveau national aux États-Unis. Du coup, les militants anti-avortement enragent et se sentent même lâchés par Donald Trump en pleine campagne présidentielle. On écoute le reportage de notre correspondant David Thompson en Floride, où l'avortement est désormais interdit au-delà de 6 semaines de grossesse.
Figure du mouvement anti-avortement en Floride, Willie Gardiola nous reçoit dans son salon ou trône une immense statue de Saint François d'Assise. Pendant 15 ans, ce fervent catholique s'est battu pour abolir le droit à l'IVG. Alors le 24 juin 2022, l'annonce de l'annulation de l'arrêt Roe v. Wade par la Cour suprême a sonné pour lui comme une consécration. Pourtant, depuis, Gardiola déchante, car paradoxalement, le nombre des IVG ne cesse d'augmenter aux États-Unis en raison des efforts d'ONG qui aident les femmes voulant avorter à voyager dans les États américains où l'IVG est encore légal.
Ici, l'interdiction après 6 semaines est entrée en vigueur le 1er mai. Mais qu'est-ce que ça change? Ils envoient des femmes enceintes de 8, 10, 12 semaines par avion vers 6 autres États pour avorter.
Et en pleine campagne présidentielle, Willie Gardiola désespère, car même chez les conservateurs, l'annulation du droit fédéral à l'avortement reste impopulaire. Du coup, Donald Trump rétropédale au grand dam de Willie Gardiola, fondateur des pro-life pour Trump.
C'est très dur pour moi en tant que président des pro-vie pour Trump de voir le président Donald Trump refuser une interdiction nationale à 15 semaines ou quand il dit qu'une interdiction après 6 semaines est, je cite, trop dur. En fait, il essaie de glaner le maximum de votes, mais quand il sera à la Maison-Blanche, j'espère qu'il interdira l'avortement partout.
L'avortement reste donc au cœur de cette élection présidentielle américaine, en particulier en Floride, où son interdiction après 6 semaines de grossesse fera l'objet le même jour d'un référendum. David Thompson, Miami, RFI.
Dans l'actualité également, le bilan humain s'alourdit après le Hajj, grand pèlerinage musulman à la Mecque. L'Arabie Saoudite a confirmé la mort de près de 1300 pèlerins la semaine dernière. Des chiffres officieux circulaient depuis plusieurs jours. Il s'agit de victimes de la chaleur, mais aussi de la désorganisation. Fait le point avec vous, Muriel Paradon.
Oui, le pèlerinage à la Mecque qui attire chaque année près de 2 millions de personnes est souvent meurtrier à cause de la chaleur excessive, des maladies ou des bousculades géantes. Mais les autorités saoudiennes communiquent rarement les chiffres ou minimisent le nombre de victimes. Cette fois-ci, le ministre de la Santé donne un bilan, 1300 morts, dont 80% seraient venus sans autorisation. Pour effectuer le pèlerinage, un des 5 piliers de l'islam, beaucoup de fidèles passent par des agences spécialisées dans leur pays. Elles encadrent leur séjour en fournissant un logement, des transports, un guide, mais cela a un coût l'équivalent de plusieurs milliers d'euros, les économies de toute une vie pour certains qui préfèrent donc éviter de prendre ces services et venir par eux-mêmes à la Mecque, sans encadrement et donc sans protection contre la chaleur notamment. C'est ce qui s'est vraisemblablement passé pour beaucoup d'Égyptiens qui représentent le plus grand nombre de victimes. Cette année à la Mecque, les températures ont dépassé les 50 degrés.
Merci beaucoup Muriel Paradon. Et puis, on parle de sport à présent et l'Euro de football qui se poursuit en Allemagne. Le pays hôte qui part en 8e de finale en étant premier du groupe A. Il a arraché l'égalisation face à la Suisse hier soir, 1-0. Dans le reste du groupe, la Hongrie a battu l'Écosse hier soir aussi, 1-0. Les Écossais sont donc éliminés. Et puis ce soir, suite de la 3e journée de la phase de groupe, l'Espagne affronte l'Albanie. L'Italie, elle, joue contre la Croatie.
Merci Sophie Pouzrat. On vous retrouve dans 2 heures pour un nouveau journal. Et nous, on va parler de l'actualité du continent américain jusqu'à 13h30, temps universel. RFI, The World's Voices. On va parler donc de l'actualité du continent américain. Nous irons en Haïti, nous irons également aux États-Unis. Et puis, l'actualité des Outre-mer, comme tous les jours, avec nos confrères de La Première. On va commencer peut-être par feuilleter la presse du jour avec vous, Antoine Gallen. Gros plan sur l'État de Pennsylvanie aux États-Unis. C'est dans le Nord-Est. Cet État, il est crucial pour la prochaine présidentielle. Et comme en 2020, ça va être très serré dans cet État rural et industrialisé.
Oui, 49,7% pour Joe Biden contre 48,6% pour Trump en 2020. Un écart de 82 000 voix seulement sur près de 7 millions d'électeurs. Et le Washington Post raconte cet état à travers un reportage à Sheffield, une ville où le gardien du cimetière est plus occupé que jamais, explique le journal. Il y a trop de personnes âgées comme moi, déclare Jack Cashmere, 86 ans, qui a toujours vécu dans cette ville de 1805 habitants. Matt Bell, le chef des pompiers volontaires, explique être l'un des rares à ne pas avoir de cheveux blancs. On découvre dans cet article une ville abandonnée des services de l'État où l'université de Sheffield ne compte qu'une trentaine d'étudiants, où la disparition de la banque exaspère les habitants. Le déclin des petites villes américaines devrait être un sujet récurrent lors des élections présidentielles, soutient le New York Times. Selon l'agence, pour la Pennsylvanie rurale, l'État perdra encore 6% de sa population d'ici 2050.
On va prendre maintenant la direction d'Haïti, Antoine, où le journal Le Nouvelliste se fait l'écho d'un départ imminent d'une force de police kényane de Nairobi en direction de Port-au-Prince.
Oui, Le Nouvelliste qui reprend les informations de l'agence France-Presse. D'après une source anonyme au ministère kényan de l'Intérieur, interrogée dimanche, l'AFP croit savoir qu'une équipe est sur le point de rejoindre la capitale demain, mardi. Selon les informations de RFI, il pourrait s'agir seulement d'une délégation de haut niveau. Une cérémonie devait avoir lieu ce lundi à Nairobi avec le départ d'un premier groupe cette semaine. Interpress rappelle que des équipes kényanes sont déjà sur place. Du personnel aurait quitté le Kenya les deux dernières semaines. Pas de chiffre exact. On ignore aussi s'il s'agit de policiers. Nairobi a proposé d'envoyer un millier de policiers pour stabiliser Haïti aux côtés de personnel envoyé par plusieurs autres pays comme le Bénin, les Bahamas, le Bangladesh, la Barbade ou encore le Tchad.
Enfin, au Brésil, l'incendie dans la région du Pantanal est toujours en cours. Cette région habitée, la plus humide de la planète, a perdu 576 000 hectares de forêt.
Le mur de feu au milieu des festivités, titre G1. L'article rebondit sur une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Au premier plan, on aperçoit une fête traditionnelle dans la ville de Corumbá et en arrière-plan, les incendies du Pantanal entourant la ville. Une image impressionnante, rapporte le quotidien brésilien. Dans cette forêt, à la frontière de la Bolivie et du Paraguay, plus de 2600 départs de feu ont été enregistrés, soit une augmentation de 1818% par rapport à la même période l'année dernière. Selon Au Globo, plusieurs internautes se sont plaints du choix d'organiser la fête malgré la situation dans le Pantanal. Les habitants du Corumbá vivent avec la fumée causée par les incendies depuis la fin du mois dernier, raconte le journal brésilien. Il ajoute que la dernière fois que le Pantanal a connu un début de saison sèche aussi incendiaire, c'était en 2020, l'année qui s'est avérée être la pire de son histoire. Dans cette région qui souffre depuis 2019 d'une sécheresse chronique, les conséquences sont désastreuses pour la biodiversité car c'est l'un des écosystèmes les plus denses de la planète.
Revue de presse signée Antoine Gallen. 13h13 en temps universel. On va parler maintenant du droit à l'avortement aux États-Unis. C'était il y a 2 ans des manifestations dans de très nombreuses villes du pays. Cela fait 2 ans que la Cour suprême a supprimé le droit fédéral à l'avortement. Malgré la colère, malgré les jours et les jours de protestation, malgré l'opposition des démocrates, le célèbre arrêt Roe v. Wade a été annulé. La possibilité pour les femmes d'interrompre leur grossesse a pris de sérieux coups depuis et reste aujourd'hui encore un enjeu de campagne à quelques mois de la présidentielle. Pourquoi ? Eh bien, nous recevons pour en parler l'universitaire Andréane Bissonnette. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse associée à la chaire Raoul Dandurand de l'Université du Québec à Montréal. Alors, dans la foulée de cette décision de la Cour suprême en 2022, plusieurs États avaient interdit l'avortement. Aujourd'hui, ils sont 14 à le bannir totalement, un certain nombre à avoir imposé des restrictions. Quelle est la situation aujourd'hui et comment fait-on pour avorter aux États-Unis ?
Oui, donc comme vous l'avez mentionné, depuis le renversement de Roe v. Wade il y a maintenant 2 ans, un nombre important d'États ont criminalisé le droit à l'avortement, ce qui fait qu'aujourd'hui, des patientes qui désirent obtenir un avortement doivent se tourner vers les États où le droit est toujours protégé. On a vu un nombre important de patientes qui se sont déplacées en 2023. Elles étaient estimées au nombre de 171 000 patientes qui se déplacent vers car des États comme l'Illinois, comme le Nouveau-Mexique, le Colorado, où le droit est protégé. Par contre, ça vient avec des conséquences importantes, à la fois pour les patientes qui désirent obtenir un avortement, qui doivent payer plus cher, pour qui la logistique est beaucoup plus importante, mais également pour les femmes résidant dans ces États qui protègent le droit à l'avortement, où le temps d'attente pour obtenir la procédure dans une clinique locale augmente et les ressources doivent maintenant être divisées entre plusieurs patientes, plusieurs patientes supplémentaires et on n'a pas eu une augmentation des ressources disponibles qui répondait à l'augmentation de la demande dans ces États.
Alors sur ce point, je vous propose d'écouter un scientifique de l'Institut Guttmacher, organisation qui vient de publier un rapport sur les conséquences de cette décision de la Cour suprême, de l'arrêt Dobbs qui a été rendu il y a 2 ans.
Il y a toujours eu de nombreux obstacles pour avorter, même avant l'arrêt Dobbs. Quand l'arrêt Dobbs est passé, c'est devenu pire. Cela a augmenté les inégalités dans l'accès aux soins. Cela représente un coût, car il faut aller dans un autre état. C'est du temps aussi, où on ne peut pas travailler. Il faut trouver un service de garde d'enfants, car la plupart des femmes qui avortent ont déjà des enfants. Et puis la loi peut être très déroutante pour beaucoup de femmes. C'est pour cela qu'elles ont besoin d'aide de la part de prestataires de soins ou des fonds pour l'avortement qui peuvent aider sur le plan financier, mais aussi pour tout le reste. Les obstacles sont tellement importants que certaines femmes ne peuvent pas les surmonter, notamment celles qui ont de faibles ressources économiques, comme les jeunes qui ne peuvent pas avoir facilement accès à une voiture pour aller dans un autre état.
Voilà, donc davantage d'inégalités. Vous nous avez parlé il y a quelques instants des difficultés dans les États qui, eux, pratiquent encore des avortements. Qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer? Est-ce qu'on a une idée du nombre, peut-être, d'une augmentation des avortements clandestins? Est-ce que ça a changé quelque chose, ce changement de législation?
C'est sûr que c'est difficile de quantifier le nombre d'avortements clandestins de par la nature de ce type d'avortement-là, mais certainement on voit une augmentation de la connaissance, des informations disponibles et de l'intérêt envers l'avortement par médication, d'où la raison pour laquelle cette cause de la Cour suprême, pour laquelle on a eu une décision il y a peu de temps, par rapport à la mifépristone était aussi importante puisqu'on a eu une augmentation du nombre d'avortements par médication qui peuvent être dans certains cas plus faciles à obtenir par voie de télémédecine également, ce qui limite les obstacles par rapport au déplacement physique dans une clinique. Au niveau des impacts par rapport aux patientes qui n'ont pas pu obtenir un avortement, je dirigerai les auditeurs et auditrices vers le très excellent Turnaway Study, qui est paru il y a déjà 2-3 ans, mais qui demeure très intéressant et offre vraiment une très bonne compréhension des impacts que le fait de se voir refuser un avortement peut avoir dans la vie des patientes.
Alors, vous nous avez parlé de la mifépristone. La mifépristone, c'est une pilule abortive et vous évoquiez aussi cette décision de la Cour suprême qui maintient pour l'instant la vente de cette pilule partout dans les États-Unis. C'est une décision de forme, en fait. Est-ce qu'il faut s'attendre à de nouvelles attaques de la part des conservateurs sur cette question de la pilule abortive?
Oui, absolument. Parce que lorsqu'on a eu cette décision qui a été rendue, qui pour le moment protège l'accès à l'avortement par médication, on avait déjà des indices que ce ne serait pas la fin de cette cause-là. D'une part, comme vous l'avez mentionné, c'est une décision sur la forme et non sur le fond, mais également parce que dans la cause initiale, certains États s'étaient joints au groupe de médecins pour plaider la cause et leur représentation n'avait pas été acceptée par la Cour suprême, ce qui fait qu'il n'est pas impossible de voir ces États ramener à l'avant-scène cette même cause et eux tenter de représenter l'argument pour lequel ils ont le droit de mener cette cause et qu'ils ont « standing » comme on appelle.
Vous nous parlez des positions des différents États. On va l'évoquer parce que cette question de l'avortement, encore une fois, c'est l'un des thèmes de campagne en vue de la présidentielle de novembre. Mais les responsables républicains la prennent un peu avec des pincettes. Et Donald Trump lui-même semble sur un fil d'équilibriste. Et de plus en plus souvent, il tente de s'en remettre justement aux États. Écoutez.
Many people have asked me what my position is on abortion and abortion rights. My view is now that we have abortion where everybody wanted it from a legal standpoint,
Voilà donc le président américain s'en remet donc clairement aux États, explique que c'est à eux de prendre la décision, soit par la loi, soit en soumettant la question au vote. Ça, c'est le discours officiel. Est-ce que selon vous, Donald Trump peut s'y tenir ?
C'est sûr qu'au niveau du discours officiel, c'est une chose. De l'autre côté, il y a plusieurs autres enjeux sur lesquels Donald Trump pourrait agir au niveau fédéral. Si, par exemple, le Congrès décide d'adopter une loi visant à interdire l'avortement au-delà de la 15e semaine, comme on a vu certains projets de loi être proposés dans les dernières années, il serait surprenant de voir Donald Trump y apposer un veto. Également, selon la nomination qu'il fera à la tête de la Food and Drug Administration, ainsi qu'au niveau du département d'État, certaines directives anti-avortement pourraient être mises de l'avant par rapport notamment à l'avortement par médication, ainsi que par rapport à des lois qui ne sont plus appliquées et qui pourraient venir restreindre l'accès à l'avortement également à travers le pays. Donc, ce n'est pas parce que, dans le point de vue discursif, il dit qu'il ne s'y attaquera pas directement, qu'il n'y a pas de multiples options indirecte par lequel l'avortement pourrait être restreint au niveau fédéral également.
Cette question de la durée jusqu'à laquelle un avortement est possible, elle fait aussi débat. On avait entendu Donald Trump parler d'erreurs terribles quand le gouverneur de Floride, qui était son rival à la primaire républicaine à l'époque, avait interdit l'avortement à partir de 6 semaines. Il a laissé entendre à plusieurs reprises qu'un délai de 15 ou 16 semaines lui semblait acceptable à titre personnel. Est-ce que l'ancien président peut garder, selon vous, le soutien des ultra-conservateurs sans perdre l'appui d'électeurs qui seraient plus modéré sur cette question de l'avortement?
Ce sera une ligne fine à naviguer pour l'ancien président parce qu'on a vu certains groupes qui lui avaient rapidement offert leur soutien en 2016 et en 2020 ne pas officiellement soutenir la candidature de Donald Trump en raison de ses décisions par rapport à l'accès à l'avortement et ses positions sur la question. Mais très certainement, du côté des démocrates, c'est un scénario qu'on veut conserver à l'avant-scène. On veut conserver cette attention sur le droit à l'avortement parce qu'on le voit très bien dans les sondages. Il y a un nombre grandissant d'électeurs et d'électrices qui considèrent le droit à l'avortement comme étant l'enjeu déterminant pour...
C'est ce que j'allais vous demander. C'est vraiment quelque chose qui pourrait les faire basculer, eux, en novembre, les électeurs démocrates?
Absolument. C'est un électeur sur 8 qui place l'avortement comme l'enjeu principal qui déterminera leur vote lors des élections de novembre. Et d'autant plus lorsqu'on regarde au niveau des courses dans les États où des propositions de modification de la Constitution pour enchâsser le droit à l'avortement sera proposée aux électeurs et aux électrices. On peut penser à des États clés, par exemple l'Arizona, le Nevada, la Floride également. Donc très certainement, ce sera un enjeu qui sera déterminant. Et du côté républicain, on a cette ligne fine à naviguer, alors que du côté démocrate, on veut vraiment conserver l'attention des électeurs et des électrices sur cette question qui fait toujours débat aux États-Unis.
Dernière question avant de vous libérer, puisque vous mentionniez les républicains. Donald Trump est soutenu par des mouvements anti-avortement. On l'a vu encore il y a quelques jours à la Southern Baptist Convention, qui réunit des pasteurs qui sont très conservateurs. Qu'est-ce qu'ils veulent, ces groupes de pression exactement? Ils veulent une interdiction totale aux États-Unis, voire même s'attaquer après à la contraception?
Oui, donc à ce niveau-là, au niveau de l'accès à l'avortement, effectivement, il y a un peu un consensus sur le désir de ne pas le laisser aux États individuels, mais vraiment d'avoir une loi fédérale qui restreint l'accès à l'avortement à l'ensemble des États, indépendamment le penchant idéologique de chaque État. Par contre, lorsqu'on tombe dans les questions de santé reproductive de façon plus globale, donc la contraception, par exemple, la fécondation in vitro également. Là, on voit des lignes de fracture au sein de ces regroupements-là et tous les regroupements ne s'entendent pas sur ce qu'ils désiraient par rapport au contrôle de la contraception et à l'accès à la contraception ou également par rapport à la fécondation in vitro. Donc, ces lignes de fracture-là sont beaucoup plus visibles sur les autres questions que sur la question de l'avortement.
Je vous remercie beaucoup, Andréane Bissonnette, d'avoir été en ligne avec nous. Et je rappelle que vous êtes chercheuse associée à la chaire Raoul Dandurand de l'Université du Québec à Montréal. Merci beaucoup.
Merci à vous, bonne journée.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec nos confrères de La Première, et on vous retrouve, Tessa Gromane, pour parler de ces armes à feu qui circulent beaucoup trop en Martinique.
12 homicides ont été commis dans le département depuis le début de l'année, dont 9 par arme à feu. 15 armes de poing ont été saisies depuis le début du mois de juin. C'est dire si la circulation d'armes est hors de contrôle dans l'île des Antilles, ce que confirme Clarisse Taron, la procureure de la République à Fort-de-France. Elle répond à Renan Bonnec, Martinique La Première.
Je trouve que nous ne sommes pas assez efficaces sur la question. On a beau essayer de remonter des réseaux d'approvisionnement d'armes, on peine à éradiquer cette arrivée. Alors moi, je crois qu'on souffre de la situation de la Martinique dans la Caraïbe, avec la proximité des États-Unis et du Brésil, et puis la proximité d'îles dans lesquelles on sait que les armes à feu circulent.
Et selon les chiffres officiels, en 2023, les forces de l'ordre ont saisi 183 fusils en Martinique, en dehors des opérations ponctuelles qui proposent aux habitants de venir déposer leurs armes détenues illégalement sans risque de poursuite. En Guadeloupe, l'enquête sur le crash qui a coûté la vie à 5 personnes au large des Saintes en décembre dernier est reprise par le parquet de Paris. Le Piper s'était abîmé en mer peu après son décollage. C'est désormais le pôle accident collectif qui va s'occuper du dossier. Un autre crash, toujours en Guadeloupe. Il a eu lieu le 22 juin 1962, mais il reste dans les mémoires de tous les habitants. Ce jour-là, un Boeing d'Air France en provenance de Paris s'écrasait à Dehaye, sur la côte ouest de l'île. À son bord, un député de Guyane, un écrivain guadeloupéen, Albert Béville, ou encore deux militants anticolonialistes. En tout, une centaine de passagers ont péri dans l'accident. Samedi, jour anniversaire du crash, les habitants de Dehaye ont rendu hommage aux victimes, Pascal Pétrine.
Mon oncle qui préparait sa gamelle nous a appelés parce qu'on dormait. Quand nous sommes sortis, tout le ciel était rouge et tous les cocotiers étaient brûlés.
Catherine Apollinaire avait 5 ans et demi à l'époque. La maison de sa grand-mère était située non loin de l'endroit du crash. Elle reste profondément marquée.
Ce qui m'a touché le plus, c'est même pas les morts, c'était les vivants. Leur corps n'est pas là, mais leur âme est là.
Des âmes qui portent des noms que 3 des participants ont lus à haute voix.
Pilar, Abraham, John, Peter.
Parmi les personnes présentes, Charles Casimir Janon, dont le frère a péri dans le crash.
Ça m'émet en fait de nombreux questionnements sur mes origines. Le sentiment que j'ai, c'est que ça me pèse.
La cérémonie s'est déroulée sous une pluie battante. Un dépôt de gerbes et une minute de silence ont été observés par l'Assemblée, conclus par la lecture d'un extrait du discours de Justin Kataillé, célèbre homme politique guyanais, disparu dans l'accident.
Un reportage de Pascal Pétrine, Guadeloupe La Première. Enfin, en Guyane, l'épidémie de dengue recule, mais le Covid et la grippe reviennent en force. C'est ce qu'indique le bulletin de Santé publique France, qui recense 73 passages aux urgences liés à la grippe A sur les 2 premières semaines de juin, soit 2 fois plus que pour les 2 dernières semaines de mai. Voilà pour les nouvelles des Outre-mer.
Merci Tessa Gromane.
J'allais jouer au baseball, mamie était pas du bon bord. C'est à cause que je jouais droitière, pas n'était pas assez riche pour que j'aie une gauchère. Au bat, je frappais pas bien fort, mon coach m'envoyait dans le champ. J'étais tout le temps dans le monde, je connaissais pas trop les règlements.
Et de la musique avant de se quitter dans RFI Midi, la chanteuse canadienne Sarah Dufour et le morceau Baseball, Sarah Dufour qui sera en concert ce soir à Montréal.
Et je poignais pas avec les gars. J'suis rentré d'un cadet de l'air. Ils m'ont nommé le cadet du mois. J'étais dans l'équipe d'impro. On jouait mes tasses d'olbo. À l'école, je me forçais pas trop. J'ai coulé mes maths et ma techno. Je venais juste d'avoir 14 ans. Puis j'écoutais du punk tout le temps. Pour passer les heures, je jouais de la guitare. On était jeunes, puis on se pensait grand. Voyager sur le pouce, on a fait des rails de chat. tout mon ménage, je l'ai sacré dans mon char. J'suis déménagé à Montréal pour aller jouer dans Ouattara.
Baseball de la chanteuse canadienne Sarah Dufour, et c'est ainsi que se termine RFI Midi. Émission réalisée aujourd'hui par Vincent Biteau. Très bonne journée à tous sur RFI, vous ne bougez pas. Dans quelques secondes maintenant, Pascal Paradou s'interroge dans De Vive Voix sur les possibilités d'écrire translingue et de débrider la langue. Il vous explique tout ça dans 15 secondes maintenant. À demain.